les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Le bœuf sur le toit, c'était d'abord une chanson rapportée du Brésil dans les valises de Darius Milhaud en 1916, « O boi no chiliado » en version originale. Puis cela devint un ballet pantomime que composa Milhaud sur la suggestion de Cocteau avant de devenir en 1922, rue Boissy-d'Anglas dans le 8e arrondissement, l'enseigne de l'établissement le plus couru de la capitale, le quartier général de ce que le monde, donc Paris, comptait alors d'artistes, de poètes, d'intellectuels, de snobs, de mondains et de demi-mondains. Pour connaître les détails de l'affaire et faire revivre les heures d'étourdissement de la fête qui précédait l'orage, suivons le bœuf avec un documentaire proposé par Paul Chavas en 1972 qui racontait, en 5 mouvements, l'histoire de ce cabaret mythique qui fut le phare des nuits parisiennes des années folles. Le bœuf sur le toit, 50 ans après, premier épisode, naissance du bœuf sur le toit.
Le bœuf sur le toit, 50 ans après. Une émission produite en 1972 par Paul Chavas. Ces éléments ont permis de composer les 5 émissions que vous allez entendre maintenant et les 19, 20, 21 et 25 août à 17h. Première partie, naissance du bœuf sur le toit.
Le Petit Parisien, 1er janvier 1922.
Quelques vœux. Ce qu'il faut souhaiter à la France au seuil de la nouvelle année, la continuation de la concorde nationale, de la paix sociale et religieuse, sans lesquelles nous pourrions attendre longtemps la fin de la vie chère et de la crise du chômage.
Un gouvernement et un parlement qui travaillent avec méthode, qui rendent vite au commerce, à l'industrie et à l'agriculture leur liberté d'avant-guerre et qui protègent nos industries vitales contre la concurrence étrangère, du moins tant que nous n'aurons pas retrouvé notre équilibre économique.
Une vision de plus en plus claire du péril que constitue pour elle sa natalité déficitaire et de la nécessité urgente qu'il y a pour elle à aider sérieusement les familles nombreuses.
Une classe ouvrière qui, tournant le dos aux doctrines de lutte de classe et de guerre civile, cherche de plus en plus dans l'association du capital et du travail la réalisation de son rêve généreux de justice sociale.
Une voisine allemande qui ne l'oblige pas à employer les grands moyens pour se faire payer et qui l'aide puissamment à relever au plus vite ces régions sinistrées du Nord.
Des alliés britanniques et américains qui non seulement marchent avec elle la main dans la main, mais qui trouvent les combinaisons financières qui ramèneront dans l'intérêt commun la livre sterling à 25 francs et le dollar à 5.
Le retour de la Russie, la première amie des mauvais jours, à l'ordre, au travail et à la santé.
Par-dessus tout, la confiance en soi, la compréhension de plus en plus nette de l'importance colossale de sa victoire.
Une âme de vainqueur.
Autour du bœuf sur le toit, une émission de Paul Chavas, réalisée par Evelyne Frémy et Marie-Rose Derouet, avec la participation de André-Paul Antoine, Miguel Asturias, Georges Auric, le commissaire Belin, Jacques-Benoît Méchin, Pierre Bertin, Francis Blanche, Adrienne Bolland, Denise Santor, James de Coquet, Marcel Jouandeau, Georges Langelanne, François Le Lyonnais, Claude Métra, Darius Milhaud, Marie Monnier-Béca, Charles de Noailles, Georges-Henri Rivière, Madeleine Sabine, Henri Sauguet, Germaine Taillefer, Louise Vess et Jean Viemer. Avec les voix de Édouard Belin, Jean Cocteau, Yuki Desnos, Camille Guérin, Élise Jouandeau, Marie-Laurencin et Francis Poulain. Texte de Jean Cocteau, Colette, André Gide, Paul Poiret et Maurice Saxe, dit par Nadia Barentin, Christian Riel et Jacques Degore. Coupure de presse recueillie par Gérard Foissy. Prise de son en extérieur, André Hautser. Mixage, Françoise Brochard.
Le 10 janvier 1922, un bar s'ouvrait rue Boissy-d'Anglas. Petite affaire, bien sûr. Mais ce bar avait pris un nom déjà curieux, provoquant pour certains, mais qui pour d'autres, pour les initiés, résumait toute une tendance, ou plus exactement, exprimait un climat d'effervescence, de créativité, dont notre art et même notre manière de vivre sont encore marqués. Le bœuf sur le toit.
Huit ans d'une folie dont je ne reverrai jamais les pareils. Huit ans d'une folie pendant lesquelles je n'ai pas repris le souffle. Qu'ai-je fait? Je me suis amusé. À quoi? À un million de choses. Comment? De mille manières. Et je ne saurais même pas le dire. Quel tourbillon! 96 mois de danse, de fêtes, de spectacles et d'amour. Cocteau, c'est le grand impresario de l'époque, le commentateur et le vulgarisateur de toutes les nouveautés. Ceci dit, ne nous dissimulons pas que Cocteau, Breton, Picasso sont depuis 10 ans le sel de Paris, qu'avec Satie, Stravinsky, les cubistes, les surréalistes et d'autres plus ou moins sérieux qu'eux, ils nous ont donné 10 ans d'un plaisir continu et puissant, dont le souvenir jusqu'à notre mort ne nous lassera jamais. Quelle merveilleuse jeunesse nous avons eue, des ballets russes aux soirées de Paris, des ballets suédois à la découverte de la musique américaine, de Gaïa au bœuf sur le toit. Maurice Sachs.
Rien n'est meilleur que d'écouter ceux qui ont vécu cette époque fameuse, qui l'ont vécue et même qui l'ont faite. Et tout d'abord, Georges Auric.
Jean Wiener, qui était notre ami à tous, à ce moment-là, il y avait ce qu'on appelait le groupe des six, qui était dans son plus bel épanouissement. Et Jean Wiener, qui était notre ami à tous, nous a dit un jour, et a dit à Jean Cocteau, « Voilà, je joue en ce moment-ci dans un petit bar qui se trouve rue Dufaux et qui s'appelle le bar Gaïa. Vous devriez venir là tous parce que c'est charmant, il y a un patron qui adore la musique, qui adore les artistes, qui n'a qu'un désir, c'est de vous voir tous arriver chez lui. Et nous sommes donc allés rue Dufaux au Gaïa. Ça nous a paru tout à fait charmant, tout à fait sympathique, tout à fait agréable, et on allait là très régulièrement, d'autant plus qu'à cette époque, hélas, maintenant lointaine, nous avions de toute façon pris l'habitude de nous réunir chaque semaine, tous les samedis, il y avait un dîner tout à fait amical et d'une grande gaieté, et on se rendait au Gaïa. Alors, après ça, ça n'a plus été le samedi, ça a été deux fois par semaine, trois fois par semaine, ou chaque soir. Et ce qu'il y a de curieux, ça, je pense que c'est Cocteau qui provoquait ça, parce qu'il a toujours entraîné des foules, des bien parisiennes, comme on dit. Et il s'est passé un phénomène très curieux, c'est que ce bar où il y avait du monde, quand nous sommes allés pour la première fois, mais on ne se battait pas pour y entrer, peu à peu, des foules de gens sont venus, un peu comme on va chez Jean Richard, vous savez, pour voir des animaux extraordinaires. C'était une espèce de cirque, on venait voir.
Et c'était vous, les animaux extraordinaires.
Oui, c'était nous, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de cage, mais on était en liberté. Mais enfin, on venait voir des artistes un peu hardis à cette époque.
Mais pourquoi? Comment se passaient les soirées? Qu'y avait-il de si attrayant outre vos personnes?
Vous savez, outre les personnes, il y avait le fait d'abord qu'il y avait Wiener, qui jouait remarquablement du piano. On découvrait le jazz, un jazz qui aujourd'hui, évidemment, est un peu le jazz de grand-papa, parce que tout ça se passe en 21. Et il y avait donc, en même temps que Wiener, il y avait un type qui jouait de la batterie, et Jean Cocteau, qui adorait toucher à tout, c'était un merveilleux touche à tout. Jean Cocteau a décidé un jour de jouer de la batterie. Alors les gens adoraient voir Cocteau taper sur un tambour ou sur des cymbales.
Jean Jean Viennaire.
Voilà, à cette époque, j'étais très jeune et j'avais une grande passion pour la musique. Et j'avais des amis très intimes comme Jean Cocteau, comme Darius Milhaud, comme Arthur Honegger. Et c'est pas une nouveauté que de raconter cette époque-là, cette espèce de feu d'artifice qu'a été l'après-guerre de 14. C'est vraiment été une époque sensationnelle où on n'avait vraiment pas assez de 24 heures pour assister à tout ce qui était nouveau, aussi bien en peinture qu'en musique, qu'en littérature. Vraiment, à tout point de vue, ça a été une époque absolument étonnante, absolument sensationnelle. Et ce qu'il y avait de plus étonnant, c'est que les gens qui inventaient, les gens qui recevaient ces inventions, se retrouvaient tous les soirs ou presque 25 ou 30 ou 40 personnes du personnel navigant, ce que j'appelle, se retrouvaient précisément dans cet endroit qui est le Bœuf sur le Toit et le petit bar qui a été le début du Bœuf sur le Toit. C'était rue du Four, en face du magasin des Trois Quartiers, presque au coin de Boulevard de la Madeleine. Il y avait un tout petit bar qui ressemblait à une salle de bain. C'était tout en céramique claire. C'était pas très joli, c'était très petit. Et à cette époque-là, les musiciens et les poètes, sous l'impulsion de Jean Cocteau, nous avions des dîners, les fameux dîners du samedi, qui étaient toujours dans le quartier de la Madeleine, qui a été le fief de Jean Cocteau toute sa vie. Et un beau jour, quelqu'un est venu me demander si ça m'intéresserait de faire quelque chose dans un petit endroit qui était celui-là. Un ami à moi avait acheté ce bail et voulait y installer un jeune garçon de Charleville qui venait à Paris, qui ne connaissait absolument rien et qui aurait bien aimé que je le conseille, est-ce qu'il fallait de la musique, qu'il fallait y prévenir de l'ouverture de cet endroit, etc. J'y suis allé, j'ai trouvé un énorme garçon d'1m90 avec des pieds et des mains énormes et qui m'a dit, voilà, excusez-moi, je ne connais rien, rien, etc. Je lui ai indiqué ce qu'il fallait faire, je lui ai donné le nom des gens qu'il fallait prévenir et surtout j'ai téléphoné à Cocteau et à Darius Milhaud qui me disaient toujours, ah, si on pouvait avoir notre bar. Alors, je les ai prévenus, ils sont venus voir l'endroit et 15 jours après cette visite, on ouvrait le bar Gaïa avec Louis Moïsès qui était le grand jeune homme au grand pied. Et grâce à 10 coups de téléphone de Cocteau et grâce à la gentillesse et la curiosité de tous mes amis, le lendemain de l'ouverture, on ne pouvait plus rentrer dans cet endroit. Et chose tout à fait remarquable, c'est que sur 50 ou 60 personnes qui formaient le maximum de clients imaginables dans cet endroit, il y avait 40 célébrités dans tous les genres. On y voyait aussi bien Mademoiselle Mistinguette avec deux grands magnifiques garçons que Léon-Paul Fargue, que Picasso et Stravinsky, que Mademoiselle Chanel. Enfin, vraiment, tous ceux qui existaient. Je ne parle pas des rois qui y venaient et de la grande banque. Et Ravel y venait et Satie. Et, enfin, je ne peux pas vous nommer tous les gens qui venaient là. Bien entendu, les Six, Millot, etc., Poulain, Coric, même les vieux musiciens, Monsieur Gide, y venait avec Marc Allégret et d'autres gens. Vraiment, c'était absolument merveilleux et ça nous a permis de, si on peut dire, je ne peux pas dire que j'ai inventé quelque chose en jouant là de la musique négro-américaine, mais j'ai certainement hâté l'entrée de la musique négro-américaine dans la musique avec un grand M.
Jusque-là, vous étiez un musicien, un exécutant de musique classique.
Ben oui, bien sûr. Moi, j'étais absolument pas destiné ni au bar, car je bois de l'eau de Vichy, ni au cinéma, alors que j'ai fait maintenant 350 partitions de films, parce qu'un jour, en 32, on m'a demandé d'en faire un en m'envoyant un pneumatique pour me rendre service, et je l'ai fait, et puis ça a plu, et puis j'en ai fait 350, ce qui représente certainement les 3/5 de mon œuvre, alors que si j'avais pas eu ce pneumatique, j'aurais, au lieu d'écrire 4 concertos et une symphonie, j'aurais probablement écrit 10 concertos et 6 symphonies, mais c'est comme ça, et voilà.
Mais dans ce bar Gaïa, vous n'avez pas été le seul musicien à vous faire entendre.
Non, parce que nous avons ouvert avec un petit orchestre, très petit, qui se composait d'un noir qui jouait diaboliquement du banjo et du saxo, qui s'appelait Vance Laurie, L-O-W-R-Y, qui a été très 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 grand interprète. Et puis il y avait naturellement moi devant un petit piano droit, modeste. Et puis alors, il y avait une chaise à côté de la mienne qui restait assez souvent vide et qui avait devant elle tout un matériel de batterie que nous avions été chercher chez Stravinsky, qui travaillait à ce moment-là dans le vieil immeuble Pleyel. On lui avait installé un appartement, une salle de travail, etc. Il nous avait prêté cela. Et alors, le grand chic, le grand événement, c'est que Jean Cocteau, de temps en temps, toute manche relevée, avec ses merveilleuses mains, attrapait une baguette et je faisais un petit machin comme ça sur une caisse claire ou sur la grosse caisse. Alors c'était des tonnerres d'applaudissements. Et voilà, c'était ça notre petit orchestre. Et c'est tout de même là qu'on a montré aux gens qui aimaient la musique que les premiers grands succès de la musique négro-américaine, qui était déjà très installée aux États-Unis, mais très peu commercialisée ici.
Et que vous a apporté justement la musique américaine, le jazz à ce moment-là ?
Oh, ben vous savez, ça, c'est le véritable apport de notre époque. Enfin, ça a été une révolution et le principe de la musique négro-américaine et l'esprit, le spirit de la musique négro-américaine, pour moi, c'est un événement considérable.
Mais vous voudriez nous rappeler, par exemple, « I love you » ou quelque chose qui vous tient à cœur ?
Enfin, les choses qu'on jouait à l'époque.
Oui, s'il vous plaît. Ben
oui, on jouait des blues, on jouait ce qu'on appelait... oui, c'était l'époque, le début des blues, on jouait des choses comme ça. Ça, c'est un admirable blues que Jean Cocteau m'avait fait connaître par un disque qu'on lui avait envoyé de New York à l'époque. Ça devait être à peu près 21, comme ça. C'est pas exactement d'aujourd'hui.
Et comment Doucet, alors, a-t-il fait équipe avec vous ?
Mon père avait un collègue qui avait mis de l'argent dans une affaire qui consistait dans la fabrication et le lancement d'un instrument qui s'appelait l'orphéal. C'était une espèce de pianola, de machin qu'on adaptait au piano. Il l'avait demandé à mon père, il lui a dit « Votre fils est musicien, est-ce qu'il pourrait pas venir un jour voir cet instrument et me dire si vraiment ça vaut la peine que de continuer, etc. » Alors je suis allé dans un petit deux pièces rez-de-chaussée près de la place d'Italie où il y avait un instrument extraordinaire, un piano avec une énorme verrue. Et puis il y avait un encore plus énorme personnage qui ronflait en bras de chemise car c'était au mois de juillet. Il y avait des bouteilles vides dans tous les coins. Alors j'ai compris tout de suite pourquoi il ronflait. Je l'ai réveillé, je lui ai expliqué de quoi il s'agissait. Il m'a dit « Bon, ben allez dans la pièce à côté, le tout avec un accent belge extravagant. » Et alors je suis allé à côté, il y avait une chaise. Je me suis assis et tout d'un coup, j'ai entendu le prélude de troisième acte de Tristan avec des violons, avec une flûte, avec des cuivres, avec des batteries. Alors j'ai pas attendu mon reste, je suis allé voir si c'était une plaisanterie. J'ai vu qu'effectivement, c'était un instrument, il tirait de temps en temps un truc, c'était absolument foudroyant. Et il m'a raconté qu'il venait de New York, où il avait été avec le commanditaire en question pour essayer de vendre ce brevet, ils avaient raté d'ailleurs. Et il m'a expliqué, en me disant, je vais vous montrer des choses qu'ils font maintenant, ils appellent ça des ragtime. Il m'a joué des tas de choses, je suis resté jusqu'au soir avec lui, et j'ai tout de suite vu que c'était un musicien remarquable. Et puis, à quelques jours de là, j'ai joué au concert Padeloup, un concerto que j'avais écrit, qui a fait couler beaucoup d'encre, et qui s'appelait Concerto Franco-Américain, où il y avait des rythmes de polka et des rythmes de... Voilà, il y avait par exemple un finale qui faisait comme ça. Et à ce concert, il y avait Jacques Roucher, qui était le directeur de l'opéra pendant beaucoup, beaucoup d'années, qui est venu me voir après le concert et qui m'a dit, voilà, je marie ma fille, est-ce que vous ne voudriez pas venir me jouer ce concerto à la maison, c'est dans 14 jours, je ne sais pas. Mais il me dit, j'ai un petit hôtel particulier, je ne peux pas avoir 60 musiciens, qu'est-ce qu'on pourrait faire, est-ce qu'on n'avait pas un ami qui pourrait... Et le lendemain, je me suis rappelé le gars de l'Orphéal, j'y étais, et il m'a dit, mais vous n'y pensez pas, maître. Enfin, je l'ai décidé, je suis allé le chercher tous les jours pendant 10 jours. Nous avons travaillé des heures l'histoire et nous avons joué. Et ça a été tout à fait extraordinaire au point de vue synchronisme. Enfin, il s'est produit, ce qui se produit parfois quand un homme et une femme s'embrassent, si j'ose dire, c'est merveilleux. On ne sait pas pourquoi, puis l'homme ou la femme, on ne la revoit plus jamais, mais on se rappelle une chose. Il y a quelque chose de monstrueux, d'extraordinaire. Doucet était l'homme le plus différent de moi qu'on puisse imaginer. C'est-à-dire que quand nous étions en voyage, il se levait exactement à l'heure où moi je me couchais. S'il voyait une fille un peu énorme, etc., il me disait « Mon Dieu, qu'elle est belle, je la trouvais affreuse. » Il n'aimait que l'ail et les choses qui me font horreur. Enfin, c'était vraiment incroyable. Je savais d'avance que si j'aimais une chose, il la haïssait. Et quand on se mettait au piano, c'était foudroyant et miraculeux.
Le jazz a provoqué un véritable enthousiasme et cette découverte n'a fait que renforcer la frénésie de danse qui possédait Paris. Partout, à toute heure et dans tous les milieux, on dansait. Voici un témoignage, la voix de Marie Laurencin.
Lorsque vous vous rencontriez à ce moment-là avec Marie Laurencin, avec les amis qui constituaient votre groupe, où vous retrouviez-vous?
Au Bœuf sur le Toit.
Quel plaisir le plus vif trouviez-vous à fréquenter ce Bœuf sur le Toit?
Parce que j'aimais danser. Et j'ai dansé avec Marcel Héron, j'ai dansé avec Maurice Saxe, j'ai probablement dansé avec Georges Auric. Et le seul avec lequel je n'ai pas dansé, c'est Marcel Jouhandeau, parce qu'en ce temps-là, il ne dansait pas. Mais maintenant, il danse.
Et pourtant, je crois que la danse, à cette époque-là, l'a tout de même pas mal attirée pour des raisons personnelles, non, Marcel Joindeau?
Ah, bien sûr, Marie est à l'origine de mon mariage. Mais je dois dire que c'est pas dans Marie ce qui m'intéresse le plus. Nous avons un passé, Marie et moi, n'est-ce pas, qui précède mon mariage. Je venais tous les jeudis chez elle, ou à peu près. Je l'ai suivie dans tous ses appartements successifs. Et là, quand je venais le jeudi, alors c'était des petites fêtes, c'était très amusant. Il arrivait que Marie m'emmenait en autobus au parc de Saint-Cloud jouer aux grâces. Nous ne dansions pas, mais nous jouions aux grâces.
Jacques-Benoît Méchain.
Le bœuf sur le toit, Dieu sait si je l'ai connu et tous ceux qui l'ont fréquenté, ça a été une époque. Moi, je l'ai vu d'abord de l'extérieur. J'étais à l'état-major de l'armée du Rhin, j'ai été envoyé pour le plébiscite de la Haute-Silésie en Pologne. Je suis entré dans la Roure avec nos troupes le 11 janvier 1921. J'ai connu une Allemagne dans un état de prostration, dans un état absolument dramatique, l'inflation. Enfin, c'était fou. C'était une folie. Et puis alors, j'arrivais à Paris et je tombais dans le bouillonnement intellectuel du bœuf sur le toit, qui était un contraste frappant avec ce que je voyais en Allemagne et qui m'attirait et tout à la fois me répugnait. Me répugnait par son côté irresponsable par rapport à ce qui se passait dans le monde. Quand j'essayais d'en parler en me disant « Ah mais non, ça c'est la barbe, on ne veut pas le savoir, ici on s'amuse, ici on va de l'avant, ici on boit du champagne, ici on écoute de la musique jazz, ne nous embêtez pas avec ce qui se passe dans le monde, on nous en a assez parlé pendant la guerre. Et nous, on veut se débrider, on veut se défouler à cause de la guerre. » Et alors c'est très curieux parce que ce milieu devant lequel j'hésitais, moi je sortais du drame allemand, j'étais passionné par le drame russe, la révolution russe me semblait être la grande aventure du moment. Et je tombais dans cette masse de petits bourgeois, car c'était des petits ou des grands bourgeois, mais c'était des fils à papa quand même.
Oui, je voulais vous demander, en effet, quel était le style social, si vous voulez, des gens qui allaient au bœuf à ce moment-là.
Eh bien, au bœuf, il y avait les spectateurs. Et puis, il y avait les gens qui créaient l'ambiance. C'était la jeunesse dorée. C'est par quoi elle ne me plaisait pas tellement. Et puis, j'avais des amis parmi les surréalistes qui trouvait ça très blâmable. Je vois encore Philippe Soupeau me dire « Cocteau, un poète, allons donc !» Et je lui disais tout de même, peut-être, il me disait « Non, un homme qui a écrit violon, bidet, qui chante, c'est pas un poète, c'est pas possible que ce soit un poète !» L'argument valait ce qu'il valait, mais enfin, il y avait tout de même un certain mépris dans lequel ces doctrinaires, ces grands pontifs du surréalisme, je parle de Breton par exemple, traitaient le bœuf sur le toit. Et dans ce milieu vis-à-vis duquel j'éprouvais une certaine distance, il y avait une telle activité intellectuelle, on brassait tellement d'idées. Ce n'était pas seulement la littérature, c'était la musique, c'était la peinture, c'était la danse. Qu'on avait tout d'un coup l'impression, vous savez, comme quand on met une lorgnette au point, que partant de ces immenses bouillonnements qui étaient dans le monde, et qu'on braquait sa lunette sur Paris, qu'on braquait ses lunettes sur le bœuf sur le toit dans Paris, que le bœuf sur le toit était le nombril du monde.
Tel quoi reste assez lumineux dans la sphère.
Exactement. Et pourquoi? Eh bien, je me le demande encore, parce qu'au fond, il n'en est sorti que peu de choses par rapport au bouillonnement que ça a représenté. Mais je crois que nulle part dans le monde, on a brassé autant d'idées, on s'est intéressé à autant de choses, et on avait l'impression qu'on ne vivait nulle part aussi intensément qu'au bœuf sur le toit.
Est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que ces gens-là, qui ont eu le courage et la... j'aime presque dire la violence du divertissement, en se détachant de tout ce qui les entourait, n'ont pas justement créé ce point lumineux?
C'est en effet la violence du divertissement, la formule est excellente, c'était une façon de tout subordonner à ce qui était susceptible de divertir sous une forme ou sous une autre, mais à condition que ce soit toujours un divertissement nouveau.
Oui, c'est en effet une époque étourdissante, riche de créations de toutes sortes. Les œuvres, d'ailleurs, les œuvres et les témoins sont là pour l'affirmer. Mais peut-être faudrait-il opposer à cette appellation « année folle » qui est trop futile pour un temps aussi riche, peut-être faudrait-il opposer l'expression de Maurice Sachs « la décade de l'illusion ». Il n'est en effet que de feuilleter un manuel d'histoire à l'année 1921 qui vient juste de se terminer pour pressentir déjà les grands problèmes qui agitent le monde et pour éprouver le besoin de suivre les grandes lignes de force de cette époque.
2 janvier 1921, traité italo-yougoslave de Rapallo.
D'Annunzio doit évacuer Fiume.
7 janvier, Mustafa Kemal bat les Grecs à Inonu.
12 mars, traité de Riga.
16 mars, traité russo-turc.
20 mars, plébiscite de Haute-Silésie.
Mars 1921, occupation de Düsseldorf, Ruhrort, Duisbourg par les Français.
30 avril, ultimatum à l'Allemagne sur la question des dettes de guerre.
2 mai, insurrection des Polonais de Silésie.
En juin, les Italiens évacuent Adalia.
27 juillet, accord franco-allemand de Wiesbaden.
25 août, paix séparée germano-américaine.
Septembre, Mustafa Kemal bat les Grecs sur le Sakaria.
20 octobre, la Société des Nations opère le partage de la Haute-Silésie.
Octobre, traité Franklin-Bouillon.
29 octobre, ouverture de la conférence navale de Washington.
En 21 également.
Fondation du Parti communiste chinois. Reprise des relations France-Vatican. Après 2 ans de guérilla, l'Irlande obtient la reconnaissance de son indépendance. Troubles et répressions commencent quelques mois plus tard.
Claude Métra.
Quand les peuples émergent d'une catastrophe comparable à celle qui s'est abattue sur l'Europe entre 1900